Frères et sœurs, les textes de la messe de ce dimanche nous présentent trois figures bibliques qui ont pour point commun d'être allées chacune jusqu'au bout de leur foi. Naaman, le général syrien dans la première lecture, qui est guéri de sa lèpre et qui ne reconnaît désormais que le seul Dieu d'Israël et qui désire lui rendre un culte. Puis l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, la deuxième épître à Timothée, son dernier écrit avant de mourir, dans lequel il nous exhorte à rester fidèles au Christ, mort et ressuscité pour nous. Et puis, dans l'Évangile, le lépreux samaritain. Aujourd'hui, j'aimerais simplement reprendre avec vous le texte de l'Évangile, m'arrêter sur l'attitude des lépreux et en particulier sur celle du samaritain. Parce qu'à travers son acte de foi, sa guérison miraculeuse et puis sa relation aussi personnelle avec Jésus, Luc cherche à nous révéler ce qu'est un acte de foi, ce qu'est la foi en tant que telle et ce qu'elle nous obtient de la part de Dieu. Alors on va reprendre ce qui se passe dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre. Que font les 10 lépreux en premier, leur première action ? Ils viennent à la rencontre de Jésus. Dès le début de leur acte de foi, il y a une démarche active de la part de personnes qui se savent malades, c'est-à-dire, dans le contexte du Nouveau Testament, des personnes qui se savent pécheresses. Ça signifie que les lépreux croient en la divinité de Jésus, ou du moins en sa puissance de guérison, et c'est pourquoi ils s'avancent vers lui. Eh bien, c'est exactement la même disposition intérieure qui devrait nous animer lorsque nous nous rendons à la messe. Cette force intérieure, cette démarche active qui illustre notre foi en Jésus qui va nous guérir et qui nous met en mouvement pour aller vers lui. Ensuite, que font-ils, ces 10 lépreux ? Ils crient « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». En grec, Jésus epistata eleison emas. Cette formule, je vous la dis en grec parce qu'on la trouve souvent dans la Bible et elle vous rappelle sans doute la prière du cœur, qu'on appelle aussi la prière de Jésus, qui nous a été transmise par la tradition byzantine depuis les pères du désert. Comme nous récitons nos chapelets, les moines dans cette tradition récitent cette invocation « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Et dans le contexte de notre évangile, chez Luc, cette invocation, elle mérite que l'on s'y attarde un petit peu. Les lépreux commencent par invoquer le nom de Jésus, Jésus, au vocatif, ils l'interpellent. Cette manière d'interpeller le Christ, elle est rare dans le Nouveau Testament. On la trouve seulement 5 fois chez Luc, dont 3 en commun avec Marc. Autrement dit, les 2 seules fois où quelqu'un s'adresse à Jésus en l'interpellant, chez Luc, c'est ici avec les lépreux, dans ce qu'on vient d'entendre, et au moment de la crucifixion, sur les lèvres du bon larron, qui supplie Jésus de le sauver. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Luc, ici, je pense, nous suggère une belle analogie biblique entre le cri des lépreux et celui du bon larron qui nous indique que l'invocation du nom de Jésus, l'appeler, lui dire Jésus, en étant mu par la foi, c'est déjà en quelque sorte lui demander de nous sauver. En d'autres termes, crier vers le Christ en invoquant simplement son nom, c'est déjà reconnaître humblement que nous avons besoin de lui pour être sauvés. Si on prend maintenant la suite de l'invocation des lépreux, qu'est-ce qu'ils disent après ce Jésus au vocatif ? Ils disent « Maître, epistata ». Là aussi, Luc, c'est le seul évangéliste à utiliser ce terme précisément pour qualifier le Christ. Et lorsqu'il le fait, lorsqu'il utilise ce terme, c'est toujours dans la bouche d'un disciple, d'un apôtre. Sauf ici, où ce mot est mis sur les lèvres de 9 juifs et d'un étranger samaritain. Alors vous me direz que c'est un détail d'exégèse. Je vous répondrai que non, parce que ce détail, il cache une profondeur spirituelle qui est très intéressante pour nous. Je m'explique. Tout ce passage de l'Évangile qu'on vient de lire, il cherche moins à mettre en évidence le miracle de guérison, qui est d'ailleurs exprimé en une phrase très succincte, « En cours de route, ils furent purifiés ». Tout ce passage de l'Évangile, il cherche moins à mettre en évidence le miracle de guérison qu'à insister sur l'acte de foi en la personne et en la parole de Jésus qui est maître du salut. Donc la fine pointe de notre évangile, ce n'est pas d'abord la guérison, c'est le relèvement complet d'un homme qui a reconnu en son maître le Sauveur. C'est ce qui est exprimé dans le dernier verset de notre passage, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». En appelant Jésus maître, le lépreux obtient non seulement la guérison, mais surtout le relèvement et l'ordre d'aller. Va, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, ce lépreux samaritain qui appelle Jésus avec le même mot que ses propres disciples, maître, il devient aussi un apôtre, un envoyé du Christ, comme les disciples. Eh bien, cette dynamique qu'expérimente le lépreux samaritain, la reconnaissance de Jésus comme maître et sauveur, la guérison ou le relèvement, et puis l'envoi, c'est aussi la dynamique que la célébration eucharistique suscite en nous. Au début, on reconnaît la souveraineté du Christ sur notre vie à travers le rite pénitentiel qu'on vient de vivre. Ensuite, on est guéri par la réception de son sang et de son corps à travers la communion. Et puis, on est envoyé pour porter la bonne nouvelle. Ensuite, le cri des lépreux se termine par « Prends pitié de nous », formule de supplication, d'imploration de la miséricorde de Dieu que nous connaissons bien. Nous l'avons prié aussi au début de chaque Eucharistie, durant le rite pénitentiel. Et là aussi, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur cette formule qui est souvent mal interprétée. On nous demande souvent « Mais pourquoi on commence la messe en se reconnaissant petit et pécheur ?» Lorsque nous disons « Prends pitié de nous », nous ne cherchons pas à nourrir une culpabilité un peu malsaine ou bien une mésestime de nous-mêmes aux accents un peu doloristes peut-être. Au contraire, on se dispose simplement à regagner notre juste place, à être humble et lucide sur notre finitude, sur notre personne, face à l'infinie miséricorde de Dieu. En disant avec foi « Prends pitié de nous », nous reconnaissons simplement, comme les lépreux, que c'est lui seul, Jésus, qui peut nous guérir de nos infirmités, de nos lâchetés, à condition que nous le laissions faire. Le lépreux samaritain, il a bien compris cela, il s'en remet à Jésus, plein de foi, plein d'espérance. Pour nous, c'est pareil, prononcer la formule pénitentielle au début de l'Eucharistie, reconnaître son péché, c'est procéder au même mouvement du cœur que le lépreux. Dire humblement à Jésus que nous avons foi en lui, que nous espérons en lui, car seuls nous ne pouvons rien faire. Après ça, après cette invocation « Jésus, maître, prends pitié de nous », Jésus envoie les lépreux vers les grands prêtres afin que ceux-ci constatent la guérison. C'est eux, à l'époque, qui posaient le diagnostic, s'il y avait guérison. Mais il se trouve qu'un seul des lépreux, le Samaritain, un seul des lépreux comprend vraiment les paroles du Christ, parce qu'il est le seul à revenir vers l'unique grand prêtre, le Christ lui-même. Il y a là une ironie du texte qu'il faudrait creuser davantage, mais je ne m'arrête pas plus là-dessus. Le Samaritain, le seul guéri qui revient, il revient en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jette face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Et ici, par souci de compréhension, par souci pédagogique, Luc insiste sur le fait que seul le Samaritain revient alors que tous les 10 ont été purifiés. Il met ces mots dans la bouche de Jésus. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Luc met en évidence ce contraste entre l'ingratitude des 9 et l'action de grâce du Samaritain pour nous montrer ce qu'est un acte de foi complet. Aller au bout de sa foi, c'est sans cesse revenir auprès du Christ pour lui rendre grâce et dire la gloire de Dieu à pleine voix. Voilà à quoi aboutit la foi d'une personne qui va jusqu'au bout de la parole et de la grâce qui lui ont été données. Eh bien, ce mouvement de l'âme, qu'est l'action de grâce et la glorification de Dieu, c'est aussi ce à quoi nous invite la messe en deux moments distincts. La première fois, lors du chant du Gloria, juste après la reconnaissance de notre petitesse à la fin du rite pénitentiel, et un deuxième moment, juste après la communion, lorsque nous avons reçu le Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. L'action de grâce, ce mouvement de l'âme, récapitule en quelque sorte et parachève tout l'acte de foi que nous professons. L'action de grâce, rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître l'immense amour que Dieu nous porte, l'infinie miséricorde qu'il nous octroie sans cesse, et c'est le lui dire avec nos mots humains, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Je terminerai avec les mots de saint Paul à Timothée, dans cette dernière lettre, dernière épître qu'il a écrite depuis Rome en captivité. Les mots de saint Paul qui résument très bien ce à quoi la liturgie de ce dimanche nous invite. Souvenez-vous de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Voilà notre évangile. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole. Alors, frères et sœurs, tâchons, nous aussi, de rester fidèles et humbles, toujours prêts à reconnaître la primauté de Dieu dans nos vies, toujours prêts à lui rendre grâce. Amen.